C'est la sixième séance ce soir, et puis merci beaucoup d'être avec Jean-Louis Comolli. Sixième séance donc qui est dédiée, je ne sais pas si le mot est juste, Jean-Louis va me reprendre, qui va permettre de réfléchir aux conditions d'émergence du sujet et d'une parole, je mets libre, au travers du cinéma militant. Cinéma militant qu'on va présenter de deux manières. Un premier film qui est de 69,
que Jean-Louis
68-69. Et un second, si je me trompe, 10 ans après, de 78. Voilà. Donc je vais laisser Jean-Louis présenter, évidemment, puisque c'est la règle du jeu, ses films. Le principe pour cette soirée, c'est qu'il y aura donc le commentaire de Jean-Louis qui va ouvrir, qui va présenter la problématique. Et il y aura le premier film, le commentaire de Jean-Louis, le second film, le commentaire de Jean-Louis, et vos questions, si vous le souhaitez. Voilà, bah bonne soirée. Et puis, juste un mot quand même, c'est que la prochaine séance, ce sera le lundi 26, et avec Imamura. Voilà. Très bien. Donc, rendez-vous le 26 également.
Merci, Jean-Louis. Merci, William. Je prends le micro. Voilà. Donc, bonsoir. On se retrouve et on fait du même coup un saut dans l'espace, du moins dans le temps, puisque pour ceux qui étaient là la dernière fois, on était en 1945, 1946, 1947, et là on va arriver en 1968. Voilà. Donc c'est un grand bond. Alors ce qu'il faut dire dans cette ellipse, c'est que évidemment les conditions de réalisation, d'inscription du cinéma documentaire dans la réalité sociale se sont complètement transformées entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis le début des années 60. Je vais parler de ça en introduction. J'y suis revenu à de nombreuses reprises au cours de ces séances pour souligner ce qu'on pourrait appeler un retard à la fois historique, bien sûr, à la fois technique, mais aussi du même coup idéologique, du son sur l'image. Le son direct, qui naît en 1960, avec la caméra mise au point par M. Coutan et Jean Rouch, qui est la caméra éclair Coutan, bien connue, et qui permettait de filmer en 16 mm, dans des conditions diverses, en extérieur, dans les rues, dans les campagnes, dans les usines, etc. Cette caméra permettait, pour la première fois dans l'histoire du cinéma, d'assurer une synchronisation entre l'image qu'on filmait et le son qu'on enregistrait, qui, grâce à un câble reliant la caméra au magnétophone, tournait, les deux images sont tournées à la même vitesse, et du coup, nous avions accès pour la première fois à la parole filmée. Quand je dis la parole filmée, ça veut dire tout simplement la parole de quiconque. La parole de gens qui n'étaient ni des comédiens, ni des acteurs professionnels, ni des doubleurs, qui étaient des gens de la rue, des gens de la vie de tous les jours, et qui pour la première fois pouvaient être filmés non seulement leur corps, non seulement leur milieu, leur monde, leur habitus, mais aussi leur parole. Voilà. Ça n'était pas possible avant, c'est devenu possible en 1960. Alors, est né ce qu'on a appelé le cinéma direct, et ce que Rouch, en hommage à Dziga-Vertov, a rebaptisé cinéma vérité. Bien. Alors, il faut s'interroger un instant, d'une part, sur ce que ça signifie, hein, le sens que ça peut avoir, ce retard incroyable, puisque je le rappelle, en 1928, 1927, 28, 29, le cinéma est devenu sonore et parlant, mais sonore et parlant en studio. Voilà, c'est cette notion qu'il faut évidemment bien comprendre. C'est que l'appareillage extrêmement lourd, extrêmement encombrant, qui permettait de faire du son direct, cet appareillage restait dans les studios et ne pouvait que très difficilement en sortir. Alors, bien sûr, il en est sorti quelques fois. J'ai rappelé déjà, je le redis, l'expérience unique, d'une certaine manière, de Marcel Pagnol avec son camion-son allant, au milieu des années 30, enregistrer des comédiens de métier, Fernandel, Laurent de Mazis, Charpin, Rému, les enregistrer en extérieur et non pas en studio, et donc récupérer à travers des textes, qui étaient des textes écrits par lui, évidemment, des dialogues signés Pagnol, récupérer néanmoins ce qu'on pourrait appeler l'inscription vraie de l'énonciation d'une parole non réglée par la technologie du studio. Voilà, c'est ce que Pagnol cherchait et ce qu'il a obtenu, mais c'est une des rares exceptions, sinon la seule. Alors évidemment, ce qui apparaît en 1960, avec Chronique d'un été, Jean Rouch et Edgar Morin, c'est en effet la possibilité d'enregistrer et restituer la parole de n'importe qui. C'est-à-dire de constituer, et pardon si je répète, mais c'est une chose importante, de reconstituer une sorte d'unité entre le corps filmé, l'identité de la personne liée à ce corps, l'histoire, la biographie de cette personne, sa parole et donc d'une certaine façon sa subjectivité. Tout ça forme un tout. Ce tout n'existait pas auparavant. Et je dis sans provocation qu'une nouvelle catégorie esthétique est née en 1960, qu'on pourrait, de manière résumée, dire le corps parlant filmé. Est entendu que c'est toujours du corps quelconque, quelconque au sens philosophique du mot, du corps de quiconque, voilà, qu'il s'agit. Alors évidemment, ça a beaucoup de conséquences. Bon, une des conséquences les plus évidentes, c'est qu'on sort des studios, donc on sort du cinéma industriel, on sort du cinéma à économie puissante, à moyens puissants, et donc on accède à un cinéma, disons, aux moyens réduits, pour ne pas dire un cinéma pauvre, un cinéma dont les coûts de fabrication sont sans rapport avec ce que le cinéma pouvait coûter à Berlin, à Cinecittà et à Hollywood, évidemment. Bien. Accès est donné à la représentation cinématographique à toute une catégorie, disons le peuple, qui en était exclu. Non pas, une fois de plus, que les corps populaires n'aient pas été filmés auparavant, notamment dans le cinéma documentaire, mais ils étaient filmés sans leurs paroles. Je rappelle, pour ceux qui étaient là il y a quelques séances, le film de Rouch qui s'appelle « Moi, un noir », 1959, qui est un film où la parole de ces émigrés nigériens à Abidjan est présente, mais elle est présente sans son direct. Elle est présente dans un dispositif que Rouch avait inventé avec le film précédent, Jaguar, et qui consistait à faire commenter d'une certaine façon doublée ou post-synchronisé, on pourrait dire, le film par les personnages eux-mêmes dans la salle en face de la projection de leur image. Voilà. Et donc un dédoublement, toujours, cette séparation que le cinéma direct va conclure, va clore. Voilà. Pendant très longtemps, avant même l'invention du cinéma, le système des représentations était un système où la dissociation régnait. L'acteur était là pour un personnage, le texte que l'acteur disait était celui d'un auteur, on était toujours dans un système de délégation, représentation, là, je dirais presque dans un sens politique, où les comédiens sur la scène représentaient des personnages et émettaient, citaient d'une certaine manière des paroles qui n'étaient pas les leurs. Donc, principe de dissociation. C'est ce qui est réduit, donc, et peut-être annulé, on pourrait dire, d'une certaine manière, par l'invention du cinéma direct, du son synchrone. Désormais, il est non seulement possible de filmer hors des studios le peuple, mais il est possible aussi, en même temps, de constituer une parole qui n'est pas une parole d'auteur, qui n'est pas une parole écrite, qui n'est pas une parole concertée, pensée, calculée par d'autres, qui est la parole subjective elle-même, c'est-à-dire, voilà, Marceline Loridan raconte son histoire, et c'est elle, indiscutablement. On ne peut pas imaginer une actrice à sa place. C'est bien son corps, c'est bien son histoire, C'est bien sa parole, c'est bien sa biographie, c'est bien son identité. Voilà donc que se constitue ce noyau, hein, moi j'appelle ça un noyau, comme un noyau atomique, hein, la métaphore vient toute seule, un noyau dans lequel ces différents éléments, qui auparavant étaient dissociés, sont maintenant associés, on pourrait dire, une fois pour toutes. C'est une révolution parce que ça n'était pas arrivé, hein, bien sûr, et c'est une révolution parce que ça ouvre, je dirais, un nouveau champ de travail pour le cinéma et notamment le cinéma documentaire, mais un champ qui est devenu aujourd'hui totalement dominant. Je crois que nous sommes tous conscients que tout ce qui se passe à peu de choses près dans l'audiovisuel, tout ce qui se passe à peu de choses près dans les télévisions appartient, relève de ce système du son synchrone, de la parole et du corps synchrone qui sont devenus donc le mode d'expression à la fois banalisé et dominant. Alors, on a fait ce saut, on arrive en 68, dans la foulée du cinéma direct. Bon, voilà, depuis 60, aussi bien Rouge que beaucoup d'autres se sont voilà, emparés de cette technique et l'ont portée l'ont accompli de mille manières. Alors, ce qui est intéressant avec Classe de lutte, 1968-69, c'est que, vous allez le voir, le son direct y est bien sûr, mais il y est parmi d'autres modalités de liaison de la parole et de l'image. D'une certaine manière, on peut dire que le son direct a mis fin, en tout cas, met aujourd'hui toujours fin, à cette dissociation entre le corps et la parole. Il les a unifiés, il les a réunis, il les a rassemblés, et c'est comme un bien extrêmement précieux auquel on ne touche plus. Voilà. Or, vous allez voir Classe de lutte, et vous allez voir que ce principe d'association que je suis en train de décrire est de nouveau séparé, divisé, dissocié, puisqu'il y a du son direct dans ce film, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de liens indirects entre corps filmé et parole enregistrée. Quelques mots sur l'histoire de ce film. Peut-être la connaissez-vous déjà. En 1967, Chris Marker et Mario Marais, si je me souviens bien, en liaison avec les ouvriers de Besançon, notamment de l'usine Rodiaceta, font un film militant qui s'appelle « À bientôt, j'espère », un titre qui est resté célèbre dans l'histoire du cinéma, un film militant. Donc, ils y vont comme des artistes ou des cinéastes ou des techniciens engagés, impliqués dans les luttes sociales, et ils vont restituer quelque chose des luttes qui se déroulent à Rodiaceta, à Besançon. Lutte très dure, d'ailleurs. Hein. C'était grève, manifestation, occupation, quelque chose d'assez violent. Ce film, À bientôt, j'espère, est montré, quand il est fini, aux ouvriers qui en sont les personnages. On retrouve ici, hein, vous comprenez bien le fait que ceux qui sont filmés, ceux qui sont dans le film, sont aussi, d'une certaine façon, les destinataires du film. Et que, comme exactement les films Lumière étaient projetés à leurs acteurs, quelques heures plus tard ou le lendemain, ce qui avait assuré le triomphe du cinématographe Lumière sur ses concurrents, puisque je prends toujours l'exemple, je l'ai montré d'ailleurs lors de la première séance, de ce petit film Lumière qui doit être le deuxième ou le troisième dans le catalogue, qui s'appelle « Le congrès des photographes à Neuville-sur-Saône ». Et donc les frères Lumière filment tout bêtement les photographes qui sortent d'une péniche et qui vont sur la rive. Alors les photographes encombrés avec leur chambre, mais tout très content, qui salue les frères Lumière parce qu'ils les connaissent bien. Les frères Lumière, je vous le rappelle, avant de faire du cinéma, et pour faire du cinéma, ont mis en place une unité industrielle de fabrication de plaques photographiques, la fameuse étiquette bleue. Et donc, ils étaient extrêmement connus des photographes, puisque la plupart des photographes se servaient de cette surface sensible qui était plus rapide que les autres et qui permettait donc des résultats plus intéressants. Et donc on voit les photographes sourire, saluer, sortir, etc. Bon, tout ça est tout à fait simple et presque d'une grande banalité. Et puis le lendemain, Ben, les mêmes photographes sont invités à une projection. Et que voient-ils eux-mêmes en train de sortir de cette péniche et de saluer le. Alors je dis simplement, bon, la photographie salue le cinéma sans comprendre que le cinéma est en train de la prendre et de la dépasser définitivement d'une certaine manière, de la prendre comme sujet. Et les photographes voient avec effarement leur propre corps filmé. On n'en était pas encore à la parole, bien sûr. Avec effarement leur propre corps filmé, venir vers eux, tout simplement, sur l'écran. Et voilà, donc se met en place cette boucle qui va caractériser le cinéma documentaire et qui fait que les gens qui sont dans les films peuvent se voir eux-mêmes dans le film en question. Alors évidemment, le cinéma, par définition, s'adresse aux autres, à ceux qui ne sont pas, à ceux qui ne sont pas dans le film, mais évidemment, et notamment dans le cas du cinéma militant, bah, ceux qui sont dans le film, les ouvriers ou les ouvrières, héros du film, bah, sont aussi ses premiers spectateurs. Et donc, Marker et Marais montrent, à bientôt j'espère, aux ouvriers de la Rodiaceta, et le film est critiqué. Il est critiqué très, très durement. Alors, si vous avez l'occasion d'acheter le coffret, je ne fais pas de propagande ici pour les éditions Montparnasse, mais enfin, elles ont édité un coffret formidable qui s'appelle le groupe Medvedkin, et dans lequel vous trouverez, d'une part, les films du groupe Medvedkin, des groupes Medvedkin, il y en avait deux, un à Besançon et l'autre à Sochaux, vous trouverez les 12 minutes de son qui s'appelle La Charnière. La charnière, on dira pourquoi, où on entend les ouvriers, après la projection, en gros dire à Marker, vous n'avez rien compris, c'est pas du tout ça. C'est pas comme ça que ça se passe, ce que vous avez filmé, c'est votre manière de voir les luttes ouvrières, ça n'est pas la nôtre. Voilà. Alors évidemment, critique extrêmement dure, critique terrible, et s'articule là une réponse que je trouve très belle. Bon, Marker et Marais disent, bon, ben, en gros, puisque c'est ainsi, nous allons vous donner les instruments et les outils, la caméra, le magnétophone, nous allons vous montrer comment ça marche, et puis vous allez faire votre film vous-même. Voilà. Et ben, c'était effectivement la réponse politique la plus cohérente avec cette crise du film « À bientôt, j'espère ». Alors, j'ai signalé la dernière fois que, après la Deuxième Guerre mondiale, après la découverte par les Alliés des camps de la mort et les documents cinématographiques qui en ont été faits, la question se posait, enfin, elle se pose théoriquement, hein, elle se pose théoriquement, de se demander si la confiance naïve, la foi que les spectateurs de cinéma avaient dans le cinéma n'avait pas été ébranlée une fois pour toutes. Et on pourrait dire, d'une certaine façon, que l'histoire du passage entre « À bientôt, j'espère » et « Classe de lutte » illustre ça, puisque, en effet, là, nous avons des cinéastes qui travaillent avec des ouvriers en lutte, qui les filment, qui sont dans un rapport de confiance et même de confidence, et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Les spectateurs qui sont aussi des acteurs ne sont pas satisfaits du résultat. Et donc, on voit bien, à une échelle toute différente et dans un registre tout différent, on voit bien comment se rejoue, une fois de plus, la défiance, hein, le principe de défiance du spectateur qui cesse de croire aveuglément à ce qu'on lui montre sur un écran et qui est en mesure de prendre une distance critique et de mettre en perspective ce qui est sur l'écran, de ne plus accepter ça comme une évidence allant de soi. Donc cette émergence de la dimension critique, de la part critique chez le spectateur est une histoire importante puisque je considère que le spectateur de cinéma a une place critique, en vérité. Alors bien sûr, il est pris dans le cours du film, éventuellement subjugué, parfois fasciné, parfois irrité, mais néanmoins il est au travail. Et la puissance du cinéma ne fait pas que ce spectateur devienne, au fond, le jouet du film. Il y a toujours une marge qui se dégage, et ça apparaît évidemment de plus en plus clairement après ce... cette crise de la place du spectateur illustrée par la possibilité nouvelle qui apparaissait que des spectateurs puissent ne pas croire à ce qu'on leur montrait. Voilà. Hein. La question de la croyance, on l'a dit hein, à de nombreuses reprises, est centrale. Bon, je redis pour poser de nouveau la chose que la croyance qui était mise en jeu par le dispositif cinématographique, la croyance qui affecte la place du spectateur est une croyance d'un type particulier. C'est une croyance qui ne met pas fin à la possibilité du doute. Ce n'est pas une croyance absolue, c'est une croyance très relative. On définit la place du spectateur en utilisant la formule venue de la psychanalyse, la formule de la dénégation, hein, qui est très simple, c'est « je sais bien, mais quand même ». ».« Je sais bien que je suis au cinéma, que tout est faux, mais quand même j'y crois ». Ou le contraire, je sais bien que je crois à ce qu'on me propose et pourtant, mais quand même, ben, c'est faux parce que c'est un artifice, parce qu'on est au cinéma, parce que voilà, je sais bien que l'écran a deux dimensions, mais quand même j'en vois une troisième. Je sais bien que le cadre est un cache, mais quand même j'imagine que ce que je vois c'est tout ce qu'il y a à voir, etc. On pourrait décliner à l'infini ou presque, ces formules dénégatrices qui caractérisent la place du spectateur et qui, selon moi, font de cette place un lieu d'expérience, c'est-à-dire un lieu de travail en vérité. Le spectateur n'est pas paresseux, quelque chose en lui est au travail pendant la séance de cinéma et il en fait l'expérience. Bien. Alors voilà que apparaît la possibilité que les cinéastes professionnels sont déclarés défaillants par leur propre personnage et en retour les personnages en question sont invités à se saisir de l'outil cinématographique pour réaliser leur propre film. Alors il faut ici donner une sorte de perspective historique à la chose. Les ouvriers de Rodia Seta à Besançon n'avaient pas que des revendications de type économique, salarial. Oui, bien sûr, c'était tout à fait important. Oui, bien sûr, il y avait chez eux un sentiment de révolte contre la dureté hein, du travail, contre la place des petits chefs, contre le contrôle qui s'exerce évidemment dans le travail industriel. Mais il y avait aussi une autre revendication assez rare pour qu'on puisse la souligner, c'est que ces ouvriers étaient préoccupés par la culture. Et à Besançon, s'est mis en place, avant même que Marc Kern y arrive, et je pense que c'est pour ça qu'il y est arrivé, s'est mis en place ce qui aujourd'hui s'appellerait un comité d'entreprise, c'est-à-dire un regroupement de forces avec une bibliothèque, avec une discothèque, avec la possibilité de lire des bouquins, d'écouter de la musique, de voir des expositions. C'est ce que les ouvriers de Rodia Seta et plus largement de Besançon ont construit et qui, d'une certaine manière, va se retrouver en jeu à partir du moment où ils auront un film à faire, bien sûr. Parce que faire un film, ce n'est pas simplement décrire la vie telle qu'elle est ou les luttes telles qu'elles sont, c'est aussi entrer dans un processus artistique, tout le monde le comprend. Et donc, du coup, l'ambition, disons, artistique de ces ouvriers joue un rôle déterminant. Donc, le film se fait. Alors, vous verrez que dans ce film, plusieurs couches de temps sont articulées les unes aux autres. Il y a des séquences qui ont été tournées en 68 et d'autres qui ont été tournées en 69. Et le film jongle ou joue avec ces deux registres temporels et c'est une de ses richesses. Je serai donc un peu plus tard, après la projection, amené à en parler. J'ai choisi de montrer ce film, bien sûr, et ensuite de vous montrer un autre film, alors bon, qui n'appartient plus tout à fait au film de mai, puisqu'il date de 78, c'est-à-dire de la presque fin de ce qui a explosé en 68 et dont les retombées arrivent jusqu'à nous, bien sûr, puisque nous n'en sommes pas sortis, contrairement à ce que d'aucuns peuvent dire. Et donc, en 78, c'est un des derniers grands épisodes hein, de la lutte alternative, on ne disait pas ça comme ça à l'époque encore, mais c'est l'IP, hein, l'IP, c'est Piaget, c'est une non seulement une tentative, mais aussi une réalisation d'autogestion ouvrière. Et donc, ce sont les derniers feux de Lippe, si j'ose dire, qui se manifestent en 78. Et une équipe de cinéastes militants, exactement, on retrouve les mêmes schémas qu'avec « À bientôt, j'espère », le groupe Ciné-Lutte va filmer à Palente, à côté de Besançon, Palente, P-A-L-E-N-T-E, va filmer, alors c'est très, très étrangement, la place des femmes dans la lutte, ou plutôt la lutte des femmes de Lippe par rapport au mouvement principal de cette occupation et de cette ressaisie par les ouvriers de leur outil de travail. Voilà. Alors, il n'est pas totalement inintéressant, loin de là, que dans les deux films, ce soit la question des femmes qui apparaissent. Dans Classe de lutte, vous allez le voir, tout est centré sur une militante qui s'appelle Suzanne. Et dans Appalante, ce sont deux militantes qui vont occuper la scène. Voilà. Sans en tirer de généralisation abusive, on pourrait constater que parmi les premiers personnages qui apparaissent dans le cinéma documentaire, militants ou non militants, qui donc viennent occuper cette place que j'ai définie de l'unité entre biographie, corps, parole, subjectivité, les femmes sont là, puisque l'une des premières, c'est Marceline Loridan dans Chronique d'un été, hein, j'en parlais à l'instant, et puis voilà, on va en voir deux autres exemples. On pourra s'interroger après sur cette affinité particulière que le cinéma, et notamment le cinéma documentaire, développe envers les sujets féminins. La prochaine fois, vous verrez également un film qui est une sorte d'apothéose de la figure de la femme. C'est l'histoire du Japon racontée par une hôtesse de bar, un film absolument stupéfiant, et où, là aussi, la parole qui va être alors, mille fois jouée et rejouée dans ce film, c'est une parole de femme. Voilà. Alors, le film est fait par un homme, bien sûr, mais c'est une parole de femme. Bien, alors, voyons Classe de lutte, et puis on en parlera après. On a beaucoup dans cette salle vu ce qu'on a appelé des films militants, auront été, je suppose, surpris par celui-ci, qui certes est militant, mais pas exactement de la même manière que beaucoup, beaucoup d'autres films qu'on a pu voir et qu'on voit toujours, puisque cette, le cinéma militant d'hier et celui d'aujourd'hui ont en commun de mettre en avant du collectif, par exemple. Alors, c'est le cas aussi dans ce film, mais pas exactement de la même manière. On met en avant des slogans, il y en a dans ce film, mais ce n'est pas exactement de la même manière non plus. De mettre en avant des luttes, alors il y en a dans ce film, mais là, encore une fois, ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Donc, on va essayer de définir ou de caractériser plutôt ce qui se passe réellement dans ce film. Alors, vous avez a été frappé, je crois, par deux choses. L'omniprésence de Suzanne, qui est là presque d'un bout à l'autre du film, et à tel point d'ailleurs que les rares moments où elle n'est pas là font tache dans ce film. Je pense au défilé de la manifestation avec les drapeaux et les banderoles, où elle n'est pas évidemment présente. Enfin, en tout cas, si elle y est, on ne la voit pas. Et ça apparaît comme une sorte de pièce rapportée à l'intérieur d'un film qui... en revanche, décline toutes les figures possibles et tous les états possibles de Suzanne militante. Bien, ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est également tout à fait saisissant, c'est que, pour ainsi dire, le film est entièrement parlé par elle, à l'exception de quelques voix d'hommes ici et là, mais néanmoins, c'est elle qui raconte. Voilà. Alors, on a donc quelque chose de singulier, qui reste encore aujourd'hui singulier dans le cinéma dit militant, c'est le fait qu'un personnage émerge, un personnage se constitue, apparaît et d'une certaine façon personnalise toute l'histoire, toute la lutte. Ça n'est pas absolument rien, puisque disons que ce film, vous l'avez vu au générique, je l'ai dit en présentation, est réalisé par un collectif mêlant des techniciens et des ouvriers. Donc l'idée du collectif est, si j'ose dire, à la base du film, à la racine du film. Et voilà, étrangement, que tout ce travail collectif, qui est repris avec insistance dans le film, dans les énoncés du film, par le magnifique discours de Suzanne sur le mur, « Ensemble, ensemble, ensemble », et en fait, cette conjonction de forces collectives aboutit à dégager un personnage. Voilà. Alors ça, je trouve ça déjà suffisamment curieux et intéressant pour le noter, parce que ça n'arrive pas très souvent, d'une part. Mais d'autre part, ce personnage ne fonctionne pas de manière traditionnelle, en tout cas traditionnelle dans le cinéma documentaire. Ça n'est pas quelqu'un qui développe une série d'actions ou de gestes dans des situations qui seraient en quelque sorte en continuité les unes avec les autres. Oh, bon, j'ai fait, et beaucoup d'autres ont fait, des films documentaires avec personnages. Bon, c'est des personnages qu'on suit, bien sûr, et puis qui, peu à peu, se constituent parce qu'on les trouve dans une cohérence avec les situations qui sont mises en jeu, dans lesquelles leur conduite peut, d'une certaine façon, écrire un scénario. Voilà. Il est très difficile, là, d'écrire le scénario des gestes et des paroles de Suzanne. Et c'est très difficile précisément parce qu'elle est partout. Elle est partout et tout le temps. Alors voilà des fonctions principales du cinéma qui se trouvent inscrites dans l'écriture de ce film. Je dirais la fonction d'ubiquité, hein, une des causes du succès foudroyant du cinéma à sa naissance et des possibilités qu'il ouvrait à l'humanité, c'était précisément cette idée d'ubiquité. C'est-à-dire qu'on pouvait, d'une part, les films pouvaient être partout projetés. Pour en revenir aux Frères Lumière, le même film pouvait être vu dans toutes les capitales européennes et même mondiales en même temps. Donc le film était déjà ubiquiste, mais qui plus est, à l'intérieur d'un film, ça c'est arrivé évidemment plus tard, puisque dans les films Lumière, il n'y a qu'un seul plan, mais à l'intérieur d'un film, un même personnage pouvait faire le tour du monde et revenir à son point de départ. Donc le cinéma ouvrait d'un coup, enfin réalisait plutôt d'un coup, ce qu'on pourrait appeler un rêve de l'humanité, hein, être partout à la fois, aller magiquement par, comme dit Marie-Pierre Duhamel-Muller, par télétransportation, être ici et là, et là, et là, abolir d'une certaine façon les pesanteurs ou les contraintes de l'espace. Voilà une des forces, une des puissances du cinéma. Il est tout à fait remarquable que les ouvriers et techniciens de Besançon aient redécouvert cette vertu-là qui, en effet, permet de multiplier les lieux et les moments d'inscription avec un corps qui est, si je puis dire, partout à la fois dans le film, c'est-à-dire partout. Bon, ça n'est pas complètement sans signification puisque, évidemment, la conséquence de ça, c'est une certaine omniprésence du corps militant. Ça recoupe tout à fait ce que dit Suzanne elle-même quand elle explique qu'elle a été tentée à un moment de quitter l'usine et d'aller travailler ailleurs, et puis finalement elle y a renoncé puisque c'eût été trahir ses collègues, ses camarades. Donc le corps militant se définirait comme un corps capable d'être partout à la fois. Et nous la voyons bien, Suzanne, dans ce film, elle est chez elle, elle milite en tapant à la machine, c'est un moment absolument génial, le mari, personnage qui n'apparaît pas non plus dans les films militants, enfin je m'empresse de le dire, il est assez rare qu'on voit soit les femmes des militants, soit les maris des militantes, mais là le couple est posé dès le départ, bon le mari pose cette question, qu'est-ce que tu fais? Et elle répond, cette réponse sublime, je milite. Voilà. Donc là on a quelque chose de tout à fait, étrange et étonnant. Bien, alors elle est chez elle, elle est avec son gosse, elle est avec sa famille, elle est ici, elle est là, elle est sous la neige, elle est sous la pluie, elle est, si je veux dire, par tout temps et en tous états. Donc, disons que le corps militant, tel qu'il est posé par ce film, est un corps militant en expansion, hein, qui gagne du terrain, qui ne se limite pas à une présence, une inscription, un geste, mais qui essaime d'une certaine manière. Alors, il y a un seul personnage dans ce film, mais ce personnage tient tous les rôles, en quelque sorte. Et il est multiple. Bon, ça, c'est une première donne importante. La deuxième, bah, qui recoupe aussi, bien sûr, un des enjeux majeurs de la naissance du cinéma, de la, disons, de la rêverie mythique qui a organisé, qui a appelé à la naissance du cinéma, à l'apparition du cinéma, ben c'est évidemment de détruire le temps chronologique, le temps linéaire, le temps comme fatum, le temps qui conduit chaque être vivant de la naissance à la mort. Voilà. Quand je dis chaque être vivant, je dis aussi les militants, bien entendu, qui n'échappent pas à cette loi générale, à ce destin commun. Bien. Sauf au cinéma. Alors au cinéma, non, en effet, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, et le film, là, je trouve de manière tout à fait étonnante, le rend manifeste. Elle est hier et aujourd'hui. Et il faudrait donc pouvoir ajouter hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Parce que vous avez vu comment le film procède dans une sorte de mise en abîme, hein, des registres temporels. Il y a une séquence de 67 qui est mêlée aux autres. Ensuite, les séquences de 68 sont mêlées à celles de 69. L'hier et l'aujourd'hui communiquent, hein, s'échangent. Un champ contre champ, on pourrait dire, entre hier et aujourd'hui, est possible. Elles regardent d'un côté et hop, on voit les images de 68. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action militante, le travail militant, ne se limite pas à une inscription dans un lieu et dans une durée. Je disais tout à l'heure, essaimage du corps, expansion du corps militant, mais on pourrait dire aussi traversée des temps historiques par le corps militant qui, d'une certaine façon, résiste ou subsiste à travers différents moments. Voilà. Alors, bien sûr que il y a une historicité de Suzanne. Il y a un avant la grève, un pendant la grève et un après la grève. Et elle, dans son récit, elle le pose. On voit les lettres de la direction quand elle est une ouvrière exemplaire, puis ensuite on voit les lettres de la direction quand elle a perdu cette exemplarité et qu'elle est devenue une gêneuse. Néanmoins, le film mêle ces différents moments, ces différentes temporalités, ces différentes inscriptions temporelles. Et les mêle, pourquoi? Mais les mêle tout simplement pour nous dire que d'une certaine manière, l'action militante est toujours en œuvre, voilà, toujours en route, que ça ne s'arrête jamais. Donc on a sur le plan spatial cette expansion, hein, ce caractère d'ubiquité, et sur le plan temporel, ben, de la même manière, une traversée des couches temporelles qui fait qu'il y a toujours de l'action, de la lutte militante qui est en œuvre, et que Suzanne incarne à la fois cette multiplicité des places et en même temps cette traversée des temps, hein, qui font que, de ce point de vue-là, elle est un personnage cinématographique. Alors bien sûr, tout ça est arrivé à Suzanne Zédé, militante, personne, femme, réelle, dont le film nous raconte l'histoire. Mais il ne la raconte pas, évidemment, d'une manière linéaire. Il nous la raconte d'une manière totalement désarticulée. Hein, vous l'avez vu, ce film est de ce point de vue-là, aussi une rareté, puisque la place du spectateur est constituée là comme spectateur capable de recoller les morceaux. Hein, c'est-à-dire, on lui offre un puzzle, au fond, hein, de moments, de temps, d'instants, de situations différentes. Et c'est notre travail, à nous, devant le film, c'est en effet de ressouder, d'une certaine manière, ces morceaux épars pour en faire un tout. Voilà. Alors, ce tout passe par la fragmentation. C'est clair, hein, le principe de montage qui fragmente toutes les situations, pratiquement, passe par cette insistance sur le corps et sur le visage de Suzanne. Il y a des gros plans, par exemple, qui sont détachés de tout contexte. On ne sait pas quand ils ont été filmés, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont là, ils viennent s'insérer dans une mosaïque, je dirais, hein, où le personnage de Suzanne est à la fois omniprésent et aussi omniactif. Voilà. Alors, ces éléments-là, bon, je le souligne, sont évidemment extrêmement rares, et on peut s'étonner que voilà, ce soit ça qui soit d'entrée de jeu, actif dans le film, dans le premier film que fait ce groupe Medvedkin de Besançon. Moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est que dans un film composite, hein, où les influences des uns et des autres se sont inévitablement mêlées, où il est extrêmement difficile de retrouver la patte de Marker ou celle de tel ou tel ouvrier de Besançon. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce caractère composite du film renvoie d'une certaine manière à ces facultés puissante que le cinéma porte en lui et d'une certaine façon nous parle du cinéma. Je vous rappelle qu'au tout début du film, ben, on voit Suzanne en direct, si j'ose dire, et puis on la voit aussi sur l'écran de la table de montage, l'Atlas 16 mm, où elle est elle-même confrontée à sa propre image. Et donc on est d'entrée de jeu dans cette logique de mise en abîme, et c'est donc un film sur le cinéma. Si le cinéma est en abîme dans le film, ça veut dire que le film, évidemment, nous parle aussi du fonctionnement du cinéma. Alors voilà, il faut dire ça. Il faut dire aussi peut-être que quelque chose apparaît là, avec une grande force, qui est le fait que une histoire d'amour, c'est-à-dire une histoire de désir, s'inscrit entre ce que j'appelle la machine cinématographique, c'est-à-dire la chose qui fabrique les images et les sons, et puis le corps filmé, en l'occurrence le corps de Suzanne. Peu importe, enfin, je ne saurais jamais qui et comment était la Suzanne référentielle. Et peu importe, puisque ce à quoi j'ai affaire, c'est la Suzanne filmée. Et de la Suzanne filmée, je peux dire qu'elle inscrit une dimension qui probablement n'apparaît pas dans beaucoup de films militants, en tout cas on peut le garantir, bah, qui est celle du désir, tout simplement. C'est-à-dire celle d'un rayonnement, je dirais, de nature érotique, hein, qui fait que le corps filmé, en l'occurrence Suzanne, ou le visage filmé, en l'occurrence celui de Suzanne, ben, entretient avec le fait d'être filmé une relation rayonnante. Voilà, ce qui nous est présenté là, et je crois que c'est un enjeu très important, et que je caractériserai l'influence de 68 de cette manière-là, ben, c'est le désir au travail dans le corps militant, hein, dans l'hyperactivité que j'ai décrite tout à l'heure, l'hypermobilité, l'hyperprésence du corps militant, s'inscrit une puissance à l'œuvre du désir. Alors, désir de lutter, désir de combat, désir de militer, tout ce que vous voudrez. Mais c'est en termes de désir que ça se dit. Et si on pourrait reprendre une grande partie des énoncés de Suzanne, et on verrait bien que c'est de ça qu'elle parle. Elle parle de ce qu'elle veut, de ce qu'elle désire, de ce qu'elle veut mettre en œuvre, de ce qu'elle a en tête. Bon, il y a cette phrase magnifique, un militant est toujours seul, mais son travail, c'est d'attirer les autres autour de lui. Bon, c'est une définition formidable du désir. On pourrait, de cette façon-là, faire une lecture transversale du film, sans le trahir, bien sûr, en mettant en avant cette place du désir articulée avec la lutte sociale. Alors, pour moi, évidemment, c'est une manière d'inscrire ce qui s'est passé pour beaucoup, et aussi pour beaucoup d'ouvriers, en 68. C'est-à-dire l'idée qu'on n'était pas aux ordres, on n'était pas seulement dans une sorte de conduite militante répondant à des mots d'ordre et à des logiques, disons, de groupe déjà constitué, de collectif déjà, mais qu'au contraire, le sujet, l'être subjectif apparaissait avec son autonomie, sa liberté et aussi, d'une certaine façon, sa plénitude. Voilà. Alors, la figure de militante qui nous est proposée ici est une figure gaie. Voilà. Elle nous dit que la lutte est gaie, que, en dépit de toutes les difficultés, des brimades, de tout ce que vous voudrez, de la réticence éventuelle des autres ouvriers, etc., il y a quelque chose d'une affirmation de soi libre et joyeuse à l'intérieur de la lutte, et je crois que c'est ce qu'incarne magnifiquement bien Suzanne. Et c'est pourquoi, probablement quelque chose s'inscrit, enfin je parle en mon nom comme toujours, je veux dire, dans ma relation à elle, bah oui, du désir, disons-le, enfin franchement, voilà, n'ayons pas peur des mots, et elle est séduisante, et plus que séduisante, je dirais, quelque chose d'une image de la lutte comme tentatrice. Voilà, il y a une... nous sommes tentés, enfin je suis tenté d'aller lutter. Bon, pas spécialement pour être à ses côtés, c'est pas le problème, mais parce qu'elle donne de la, du combat syndical une version, je dirais, allègre. Voilà, hein, une version pleine de satisfaction et de joie. Il y a cette phrase, le film est très riche de ce point de vue, la parole de Suzanne est très riche. À un moment... l'intervieweur Paul Sepp, je pense, donc un des organisateurs de ce collectif, lui dit, mais est-ce que tu n'as pas le sentiment, je traduis en mes mots, que tout ça est vide, voilà, qu'il y a du vide dans ton action? Et elle dit oui, d'une certaine façon, c'est vrai, puisque le bénéfice du travail, la plus-value, pour le dire en termes clairs, c'est toujours le patron qui l'encaisse, et donc on est dépossédé d'une certaine manière. Mais en même temps, pour elle, ça n'est pas vide, parce que précisément, ben, voilà, ça la met en contact et en phase avec beaucoup d'autres. Voilà. Donc cette dialectique du vide et plus vide ou moins vide, on est de nouveau dans une dialectique du désir, évidemment. C'est toujours de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors tous ces éléments-là que j'ai soulignés rapidement sont évidemment des éléments très, très novateurs dans le petit monde du cinéma militant et d'une certaine façon présentent quelque chose qu'on pourrait qualifier de scandaleux. Voilà. Il y a un scandale de ce personnage qui s'affirme avec cette énergie, avec cette insolence, mais aussi avec cette extrême gentillesse qui s'affirme comme étant ce qu'elle est. Voilà. Alors, je boucle là, puisque voilà ce que la possibilité de filmer des travailleurs, des travailleuses, des militants, des militantes, dans ce dispositif léger du 16 mm synchrone, permet de faire émerger dans l'histoire du cinéma. Avant ce film, et en tout cas avant 1960, il n'y avait pas de figure de ce genre. Et il a bien fallu, là, considérer que la transgression qui s'est opérée avec la mise au point du cinéma léger synchrone a déplacé littéralement le champ des questions. Et qu'on est, comme je disais, sorti des studios pour aller dans le peuple et faire apparaître donc en quoi ce peuple pouvait avoir des choses importantes à dire. Voilà. Il y a, tout ça, je trouve, est très beau. J'insisterai pour conclure sur tout ce travail aboutit d'une certaine manière au sourire de Suzanne. Voilà. Quelque chose va continuer de flotter dans notre mémoire de spectateur, qui est son regard et son sourire. Et je trouve que c'est une très belle définition du combat syndical et de la lutte. Je voudrais maintenant dire quelques mots d'introduction au film qu'on va voir, Appalante. Donc, 10 ans plus tard, 1978, un groupe de cinéastes militants qui s'appelle Ciné-Lutte, qui était en crise d'ailleurs, puisque là, c'est le Ciné-Lutte numéro 2 qui va réaliser Appalante. Alors, ce groupe est constitué de 4 femmes et de 3 hommes. 4 militantes et 3 militants, mais qui sont des cinéastes engagés, des cinéastes militants, ils ont fait d'autres films. Et donc, l'idée est d'aller à Palante, là où se trouve l'usine LIP, et de filmer ce que les femmes de LIP, il y avait des ouvrières évidemment à LIP, ce que les femmes de LIP ont à dire, presque au terme, enfin, disons, dans les dernières phases de cette lutte qui a duré plusieurs années. Alors, le film a été réalisé par un collectif, une fois encore. Ce collectif s'est trouvé, est entré en liaison avec ses ouvrières, et quelque chose, là encore, s'est produit d'assez déconcertant. Ce qui s'est produit, c'est, comme d'une certaine manière dans le prolongement de Classe de lutte, et c'est pourquoi je voulais montrer les deux films l'un à la suite de l'autre. Ce qui s'est produit, c'est que la présence, le rôle, le jeu des femmes dans la lutte ouvre un champ de questions que les hommes n'avaient pas ouvert. Voilà. Et donc quelque chose là, encore une fois, du rapport entre combat, lutte de classe et désir se manifeste, et je pense qu'on a toujours beaucoup à apprendre de ce côté-là. Donc je vous propose de voir Appalante. Donc, quelques mots de commentaire sur ce film que je revois avec vous et qui continue de m'étonner énormément. Pourquoi ? Écoutez, donc une lutte qui dure. Des femmes engagées dans cette lutte, qui ont constitué, vous l'avez compris, un groupe de femmes mettant en cause, en gros, la direction mâle des luttes, y compris à l'IP, dans une usine autogérée, dans des phases de lutte qui étaient peut-être à l'avant-garde de ce que la classe ouvrière a fait en France et en Europe. Des militants ciné-lutte qui vont filmer ces femmes en lutte, et donc une sorte d'accord implicite sur la question des luttes, sur la militance, voilà. Et que se passe-t-il ? Il se passe que le cinéma est là. Le cinéma est là et, évidemment, tel un magicien, je dirais, il va transformer les relations des uns avec les autres et même les relations de chacun avec chacune. Oui, on le voit dans ce film, ce qui est ramené, au fond, par les cinéastes militants de ciné-lutte, c'est un film sur des luttes, mais d'une manière très transversale. Et là aussi, donc, on est dans une sorte de transgression de ce que pourrait considérer comme étant la doxa du film militant. C'est un film très paradoxal, ou très adoxal de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ça vous l'avez tout à fait perçu, ce film met en avant les contradictions. Voilà, contradiction dans la lutte, contradiction entre hommes et femmes, mais contradiction à l'intérieur même des personnages qui apparaissent et qui sont en butte, comme nous tous, à une série de contradictions difficilement surmontables. Bon, alors évidemment, on est là dans un geste qui est davantage un geste cinématographique qu'un geste militant. Malheureusement, je dirais, le propre de quantité de films militants est d'effacer les contradictions, ou en tout cas de les mettre soigneusement derrière le rideau, de façon à, en s'imaginant qu'en procédant ainsi, on aurait dans la salle quelque chose qui ressemblerait plus à une mobilisation, ou à un enthousiasme, ou à une conviction des spectateurs. Alors que là, évidemment, le film, enfin je parle toujours de moi, mais le film m'épate parce qu'il met en avant tout ce qui, d'une certaine façon, rend la lutte difficile, complexe, voire impossible, et que néanmoins, en dépit de ces difficultés, à travers ces difficultés, à travers ces contradictions qui sont, je trouve, une fois de plus, extraordinairement bien énoncées par ces femmes, et c'est encore au passage hommage au cinéma direct qu'il faut rendre, puisque voilà, nous avons accès à une parole féminine ouvrière comme on n'en entend jamais. Déjà à l'époque, on n'en entendait pas, mais aujourd'hui, alors je dirais plus jamais. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait très fort. Donc je reviens à ce que je disais sur les contradictions. Bon, ces femmes sont en lutte, mais elles sont en lutte avec la lutte, si j'ose dire. Voilà, elles sont en lutte parce qu'il y a quantité de contradictions qui apparaissent, elles en sont conscientes. Le fait qu'elles en soient conscientes et qu'elles soient capables de les formuler est évidemment un effet de la lutte. Elles le disent elles-mêmes, sans ces groupes de femmes, elles n'auraient pas parlé, elles n'auraient pas pris la parole. Prendre la parole et pouvoir développer ou élaborer ce qu'on a, ce qu'on a dans la tête, c'est évidemment quelque chose qui, on peut imaginer que ça fait partie ou ça entre en corrélation avec un apprentissage de la parole qui est celui de la grève et de la lutte. La lutte, c'est bien sûr, tout le monde le sait, une occasion de sortir de soi, d'expérimenter de nouveaux rapports avec les autres et de se forger d'une autre manière. C'est ce qui s'est passé là pour ces femmes. Mais voilà que ce qui se passe du côté de la lutte se passe aussi du côté du cinéma. Et c'est en ce sens-là que ce film est véritablement important, parce que, évidemment, et oui, on le constate, l'arrivée du cinéma dans ce groupe de femmes, devant ces quelques femmes, les conduit à entrer dans le jeu. C'est particulièrement net pour René, celle qui chante à la fin, dont il est à peu près certain qu'elle joue le jeu, et qu'elle joue le jeu du cinéma, et qu'elle se constitue, sans qu'on lui ait rien demandé, je suppose, en personnage. Il y a une petite scène tout à fait étonnante qui renvoie d'ailleurs à un ou deux films du groupe Medvedkin. C'est une scène dans l'usine où René joue la directrice et Christiane joue l'ouvrière. Voilà quelque chose, une situation carnavalesque, disons-le, où les ouvriers jouent le rôle des patrons. Alors, il y a un film du groupe Medvedkin qui fonctionne comme ça aussi. Évidemment, c'est profondément révolutionnaire, parce qu'il y a quelque chose là d'une critique en acte, d'un démontage au fond, de l'autorité qui est une part importante du geste de subversion, du moment de subversion. Alors voilà, donc ce qui me paraît intéressant, c'est que à travers, disons, les modalités très simples du cinéma direct, on filme des gens qui parlent, on filme des réunions, des groupes, des entretiens, des scènes à deux. Le mot de grammaire ne convient pas, mais enfin, disons, un arsenal formel simple, je ne dis pas pauvre, mais simple, qu'est-ce qui se produit ? Il se produit que j'appelle ça des personnages apparaissent, se constituent, commencent à consister. Et alors, évidemment, c'est tout à fait vrai pour Christiane et René, qui sont les deux personnages principaux de ce film, ou principales de ce film, mais c'est vrai aussi pour d'autres. Je pense à cette ouvrière qui s'appelle Alice, qui a une apparition relativement circonscrite dans le film, mais qui emporte vraiment le morceau. Donc on voit bien comment ce que la lutte a permis chez ces femmes, c'est-à-dire une autonomisation, une prise de risque, vaincre la peur, affronter, j'aime beaucoup le dialogue sur la dignité ou l'absence de dignité, sortir dans la rue et crier, c'est manquer à la dignité. Donc le courage d'affronter cette défaillance du côté de la dignité pour faire aboutir ses revendications, tout ça est très important, évidemment. Mais ce qui est frappant, c'est que cette émergence de la parole féminine, du corps féminin, de la pensée féminine dans une lutte vient rencontrer, au fond, le cinéma et, à sa façon, le subvertir. Parce que, bien sûr, ont été filmées toute une série de choses qui sortent du jeu tel qu'on l'a vu ressassé du film militant bien pensant, si j'ose dire. Ce film n'est pas bien pensant. Voilà. Et c'est extrêmement, réjouissant. Réjouissant d'être loin de la doxa, loin des écritures stéréotypées et loin de la bienséance, d'une certaine manière. Parce qu'évidemment, il y a ce monologue magnifique de René. Enfin, il y a deux monologues magnifiques dans le film. Il y a celui de Christiane qui explique qu'elle a fini par comprendre à un moment que faire des observations à sa fille ou à son fils, je ne sais plus, sur son cahier de notes, c'était d'une certaine manière se retrouver dans une situation de flic. Et que donc d'exercer sur l'enfant la même autorité que celle que ses chefs exerçaient sur elle, et que du coup elle était dans une contradiction insoluble, et que elle était amenée à se demander pourquoi elle voulait que son enfant fasse autre chose que le métier d'OS, comme si ce métier qu'elle faisait était dégradant. Donc elle découvre tout ça en quelques paroles. Bon, c'est un monologue magnifique. Et quant au monologue de René, vous avez vu à quel point il est sidérant et troublant, puisque là, on est dans la contradiction même entre, entre l'ordre, la hiérarchie, le pouvoir, la lutte des classes et le désir, qui passe par d'autres chemins et qui suit d'autres sentiers et qui peut entrer tout à fait en conflit avec tout ce que le pouvoir et l'autorité représentent. Voilà. Alors, évidemment, que ces monologues soient possibles, je le mets à la fois sur le compte de ce que la lutte a libéré chez ces femmes, à ce qu'elle a fait d'elles, et je le mets sur le compte du cinéma qui est là pour l'enregistrer. Et de ce point de vue-là, si ce film est militant, il l'est dans le sens où il aboutit aux mêmes effets libérateurs que la lutte avait elle-même produit. Et il y a donc une sorte de convergence, mais une convergence non pas sur la lutte au sens habituel, au sens étroit du mot, l'affrontement, etc. Il y a beaucoup de scènes dans le film qui renvoient à ça, bien sûr. Mais la lutte plutôt au sens où l'individu, le sujet, je ne dis pas individu, je dis sujet, elle parle d'individu, moi je parlerai plutôt de sujet, le sujet se constitue comme une puissance contradictoire et sa conscience fait partie de cette contradiction. Et le site sur lequel cette contradiction se déploie, est évidemment là nous sommes exactement au cœur du geste cinématographique, et on pourrait dire que ce que je disais tout à l'heure sur la place du spectateur clivé dans l'opération cinématographique par la contradiction insoluble entre l'artifice et l'authentique ou la croyance véridique, se retrouve, nous sommes des êtres contradictoires et nous avons affaire à des êtres qui révèlent leurs contradictions au cinéma. Alors bien sûr, tout ça excède largement la définition classique du film militant et nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond. Et je voudrais, avant de vous donner la parole, insister sur la puissance qui se manifeste du côté du corps filmé et du geste cinématographique dans leur conjonction quand on voit ces femmes, leur beauté, leur rayonnement, leur dignité extrême, leur force et la puissance de leur parole. Voilà un film qu'il faudrait aujourd'hui passer partout pour faire, non pas par culte d'une période révolue et dont on pourrait avoir la nostalgie, mais pour montrer que dans le geste cinématographique, il y a toujours ce travail de libération, d'affirmation de soi, de mise en jeu d'une autonomie, de prise de risque et de prise de responsabilité, qui est la relation qui s'institue dans la pratique documentaire, qui devrait s'instituer dans la pratique documentaire entre ceux qui font des films et ceux qui sont filmés. Et quand je dis ça, je fausse déjà ce que je pense, puisque en vérité, ceux qui font les films, c'est ceux qui sont filmés. Voilà, il faudrait le dire comme ça. Dans la pratique documentaire, quelque chose d'un entrelacement s'opère, une sorte d'union ou de mariage ou de superposition, comme on veut, entre le corps filmé et la machine qui le filme, machine, équipe, etc. Et c'est bien ça qui est proprement miraculeux et qui ne peut être que, faiblement représenté dans la fiction, puisque je le redis là, la fiction, c'est faire comme si on n'était pas filmé. Voilà, c'est la définition la plus simple et la plus opérationnelle de la fiction. L'acteur fait comme si il n'était pas filmé. Dans ce film, personne ne fait comme si il n'était pas filmé. Au contraire, la conscience d'être filmé est manifeste. Il y a évidemment tout ce qu'il faut pour ça, il y a de l'auto-mise en scène, il y a des regards caméra, il y a des sourires, il y a des signes, il y a tout un ballet, si je puis dire, entre machine filmante et corps filmé, qui fait que la véritable matière qui se dégage de ça, c'est bien sûr que les personnes filmées ne sont pas les sujets du film, mais deviennent véritablement les acteurs du film, c'est-à-dire acteurs au sens là d'agir, de prendre le film en charge. Et je crois que c'est ce qui s'est produit et c'est dans ce sens-là qu'il faut rendre grâce aux militants de ciné-lutte d'avoir su, d'une certaine façon, sinon disparaître, du moins s'effacer devant la force qui apparaissait devant eux. Les cinéastes idiots se croient plus forts que ceux qui filment. Je crois qu'il faut comprendre qu'on doit être moins fort que ce qu'on filme et que c'est ça qui permet finalement à la force du monde ou à la force du peuple d'apparaître dans un film. Je vous donne volontiers la parole.
Merci.
Avez-vous des questions ou des remarques bref.
Dans le premier film, je me posais la question de si ce n'est pas la première fois dans le cinéma documentaire et peut-être dans le cinéma militant que, le, que la notion de casting apparaît avec une telle force. C'est-à-dire que ce film n'aurait pas été ce film si ce n'était pas cette fille.
Ah, ben ça, je suis bien d'accord avec vous, oui. Alors, c'est ça, oui. Bon, la question, vous l'avez, c'est une question troublante. Je l'ai dit d'une certaine manière dans l'analyse que j'ai faite. Voilà un collectif de techniciens et d'ouvriers qui décident de faire un film ensemble sur leur lutte, après avoir critiqué le travail de Marker et de Marais en disant non, c'est pas bien, vous avez raté beaucoup de choses, vous n'avez pas tout montré, il manque ceci, il manque cela. C'était l'essentiel des critiques adressées par les ouvriers à bientôt, j'espère, et qui sont dans la charnière. C'était que il n'avait montré qu'une toute petite partie des problèmes, et autrement dit qu'ils avaient appliqué sur la réalité de la lutte un filtre qui était celui de leur conception de la lutte et du monde militant. Alors voilà donc ce groupe qui se constitue à la suite de cette critique, et c'est pour ça que la bande son intermédiaire s'appelle la charnière, parce que c'est la charnière entre l'avant et l'après, le moment où les ouvriers se mettent à réaliser eux-mêmes. Alors il est tout à fait étonnant que ce collectif qui se constitue à ce propos réalise en fait un film sur une militante, hein. Alors, qui devient évidemment une sorte de, bon, voilà, d'incarnation de toute la force, de toute la vie militante, un personnage qui devient exemplaire, qui devient... On voit dans ce film, comme dans Appalante, on voit comment les gens qui sont filmés dans une situation documentaire, et a fortiori quand un référent de lutte est en jeu, deviennent des personnages, tout simplement, deviennent des personnages de fiction. René est un formidable personnage de fiction. On pourrait écrire un scénario sur sa vie. Voilà. C'est évident, mais on pourrait dire la même chose pour Suzanne, hein. Et donc, vous voyez bien comment chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, peut filmer, apparaître comme porteur de fiction. Je crois que tous nous sommes porteurs de fiction, tous, toutes nous sommes porteurs de fiction, et que c'est une partie du travail négatif du cinéma que d'interdire les fictions que nous portons tous en nous, hein, et de nous les faire, de nous en faire jouir comme celles des autres, hein, par procuration, imitation ou projection. Voilà. Quand le geste documentaire se met en route, c'est précisément cette dimension fictionnelle des êtres réels qui apparaît. Voilà. Le cinéma, on pourrait le dire autrement, dédouble, divise le corps filmé, la personne filmée, et bon, il y a toujours quelque chose de sa réalité, son monde, son milieu, son corps, son identité, sa biographie, tout ce que j'ai décliné tout à l'heure, et puis quelque chose d'autre apparaît, qui est la mise en cinéma de tout ça, et la mise en cinéma de tout ça qui peut se faire à travers un simple plan fixe et un simple monologue, comme on en a le très bel exemple dans Appalante. Inévitablement, le cinéma fabrique de la fiction à partir de la réalité. Voilà. Et d'une certaine manière, on peut se demander, je me demande en tout cas, si ce sens-là est finalement aujourd'hui, compte tenu de l'histoire du cinéma, compte tenu de l'histoire des représentations, n'a pas plus de sens que le chemin inverse, hein, qui constitue à fabriquer de la réalité à partir de la fiction. Voilà. C'est une question qu'on peut se poser. Moi, je vous la pose, je me la pose aussi. Alors voilà, je réagis comme ça à votre remarque qui est très juste. Il y a quelque chose d'étrange et d'étonnant de voir donc tout un collectif finalement se condenser, hein, dans ce corps filmé, dans cette personne-là, avec quand même les dimensions que j'ai soulignées tout à l'heure, le fait qu'elle devient omniprésente et omnipuissante, voilà, et que donc là il y a disons une figuration de la vie militante qui la magnifie, la rend tout à fait magique, hein, puisqu'elle est à la fois sans arrêt en lutte, elle est toujours là, sa parole est toujours là, elle prend le film à bras-le-corps, hein, c'est incroyable comment ce personnage, à ce point disséminé à l'intérieur d'un film, le saisit totalement. Hein, voilà. Et là, encore une fois, je rends grâce aux techniciens et aux ouvriers du groupe Medvedkin d'avoir accepté, ce qui ne va pas de soi, hein, de s'effacer d'une certaine manière et même de disparaître pour laisser apparaître au contraire Suzanne Zédé et au fond lui confier hein, toute la force de cette lutte et de ce travail militant. D'autres questions ou remarques? Oui, madame?
Si les personnages avaient été des hommes, ça aurait été certainement plus plat comme film.
Écoutez.
Parce que vraiment, c'est hyper.
Non, mais on peut le penser. Hein, on peut le penser.
Bah, c'est sûr.
Bon, c'est, évidemment, montrer ces deux films l'un après l'autre, c'est forcément marquer ça. Marquer qu'il y a une affinité profonde entre le cinéma et les personnages féminins. Bon, mais je crois, enfin c'est dit dans le film, dans Appalante, c'est dit à deux ou trois reprises. Bon, les femmes, en gros, reprochent aux militants de l'IP d'être toujours dans l'analyse de classe, la revendication, etc., alors qu'elles sont dans la réalité vécue. Voilà, bon, y a cette vieille querelle ou cette vieille opposition entre ce que les uns vivent et ce que les autres pensent. Et en même temps, c'est moins simple que ça, puisque, vous l'avez entendu aussi, par exemple, Christiane dit, en gros, qu'elle a commencé à penser, qu'elle a commencé à articuler de la pensée à partir du moment où elle est entrée en lutte dans ce groupe. Donc, c'est... Voilà, je ne pourrais pas faire grand-chose de plus de votre remarque, sinon la prochaine fois, vous proposez des films où les hommes jouent un rôle vraiment très très bien. Il y en a quelques-uns. Cela dit, je pense à un autre film qu'on aurait pu... Enfin, non, il est trop long pour le passer ici, c'est dommage, mais je pense à un film célèbre qui s'appelle Harlan County de Barbara Coppel, qui est un des grands modèles du film militant. Alors, il se trouve que dans Harlan County, la lutte est menée entièrement par des femmes. Enfin, presque entièrement par des femmes, et que les hommes sont nuls, disons-le, et que les femmes s'arment, et elles prennent des revolvers, et elles vont faire le coup de feu. Voilà. Mais c'est juste une remarque au passage qui vous donne raison.
Alors, moi, je m'inscris en faux parce que une femme qui milite ou un homme qui milite, c'est quelqu'un qui milite, c'est pas un homme ou une femme. Oui. Et je trouve que dans le deuxième film, les personnages féminins sont traités d'une façon ignoble. C'est de l'anecdote, elles n'ont aucune analyse politique. C'est vraiment. Je trouve que ce film est un film misogyne. Je suis tout à fait d'accord sur le personnage de Suzanne, c'est ça Suzanne, oui, dans le Suzanne, premier film, oui. Que je trouve une personne intéressante, mais elle m'intéresse parce qu'elle milite, elle ne m'intéresse pas parce qu'elle est une femme qui milite. Alors, c'est vrai qu'il faut replacer...
C'est un peu difficile à séparer quand même.
Ah non, je regrette. Attendez, vous parlez... Comment pouvez-vous ressentir ce que sent une femme qui milite?
Non mais, je veux dire...
Je ne me suis jamais posé dans toute ma carrière de militante, de représentante syndicale, de déléguée du personnel et autres, je ne me suis jamais posée comme une femme. Et les revendications que nous avions en tant que femmes, j'ai toujours refusé... dans le cadre du syndicat, de les discuter dans le cadre d'un groupe femmes. Pour moi, le groupe femmes, c'est une ségrégation qui n'est pas admissible.
Eh oui, non, mais j'entends très bien ce que vous dites.
Et quand je militais, vu mon âge, quand je militais au MLAC ou à Choisir, je souhaitais qu'il y ait des hommes avec nous.
Oui, mais madame, vous parlez de votre vie réelle.
Non, je parle de...
Excusez-moi, je peux me permettre d'en placer une.
Non, mais je peux continuer à expliquer, parce que vous avez mal comprise.
Non, mais on va essayer de s'entendre mutuellement, mais pour ça, il faut que chacun parle. Vous voyez là un film.
Je vois un documentaire.
Oui, un documentaire. Enfin, excusez-moi, le cinéma... peut-être n'étiez-vous pas présente à mes précédentes séances. Peut-être que vous ne diriez pas exactement, enfin j'espère que vous ne diriez pas la même chose si vous aviez été là. Néanmoins, documentaire ou pas, c'est du cinéma, madame. Oui. Et on n'y peut rien, ni vous ni moi. C'est comme ça. Et au cinéma, figurez-vous, ce qui apparaît inévitablement, ce ne sont pas les organisations... les directives, les slogans. Parce que le cinéma filme des sujets, madame. Alors, je vous aurais filmé, vous seriez apparue comme une femme militante et non pas comme une militante. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et d'ailleurs, je vous propose de faire l'expérience et vous verrez vous-même.
Donc je ne suis pas, je n'aime pas du tout le deuxième film, et je vous explique pourquoi.
Ah non, non, mais ça, c'est votre liberté. Vous savez, le principe, c'est que chaque spectateur entretient avec un film une relation singulière, sur laquelle il y a peu à dire. Il y a des films que j'aime et des films que j'aime pas, vous aussi, et ça peut être pour des tas de raisons. Tout va bien, ça ne me gêne pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un film travaille le spectateur. C'est ça qui m'intéresse. Il peut la travailler, spectatrice, de façon très négative, comme c'est apparemment le cas avec Appalante pour vous, ou d'une façon moins négative. Mais pour moi, le film pose des questions. Le film est là pour poser des questions au spectateur. Vous avez répondu, madame, à votre manière, en disant que pour vous, il y a... Les questions de la femme sont effacées par les questions de la revendication, du combat social, etc. C'est une réponse. Je ne vous dirai ni le contraire et je ne vous approuverai pas non plus.
Vous pourriez me dire le contraire, vous ne me convaincriez pas.
Voilà, mais j'essaye pas. Non, mais ce que je veux dire, si vous voulez, qu'est-ce que nous apprend le cinéma? Qu'est-ce que nous apporte le cinéma? À mettre en perspective ce que nous vivons, à le voir autrement. Voilà. Et c'est pour ça que je vous invite, madame, à voir des films. Parce que, voyant des films, vous verriez le monde des luttes, le monde social, ou si d'ailleurs le... Non, mais écoutez, alors voyez-en plus. on n'en finit jamais avec ça. Non, mais voir des films, j'entends par là, si vous voulez, voir que le monde qui apparaît dans les films n'est pas absolument l'identique du monde que nous connaissons dans la vie réelle. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas une leçon de morale, madame, c'est une leçon de politique, excusez-moi. Eh oui, parce que si vous croyez que les films et le monde, c'est la même chose, alors il faut interroger un petit peu le sens que ça peut avoir.
Alors là, je vais couper court, mais je suis désolée d'avoir osé contredire le maître.
Oh, je ne suis pas un maître, madame. Et en plus, j'adore être contredit, vous voyez, je prends du plaisir. Je suis moi-même plein de contradictions et j'adore que ces contradictions me reviennent. Mais je vous en ai pas foutu plein les dents, madame.
Excusez-moi. Alors
là. Bon, je ne suis pas vexé et vous ne m'avez pas gêné, madame. Donc tout va bien. Vous avez tout à fait le droit de parler comme vous parlez. Ça ne me dérange pas. Voilà. Ça vous va? Bon, merci. Merci quand même. D'autres questions? Oui. Tout à fait à l'autre.
Oui, ben moi, j'ai une perception du premier film comme quelque chose de pas tellement enthousiasmant, parce que finalement, j'ai eu l'impression que, d'une part, le mouvement du syndicat, il avait connu une apogée à un moment, et après, il avait décru, parce qu'à un moment, il y a des chiffres qui sont cités, avant 68-0, après la grève, un certain nombre, et après, c'était redescendu, et l'héroïne, entre guillemets, admettait que dans la lutte, il y avait des hauts et des bas. Et ensuite, elle-même, on voyait qu'elle était, qu'elle avait été dégradée, enfin, d'un point de vue purement professionnel, évidemment, par sa lutte. Et on n'a pas l'impression que, la lutte syndicale a donné des résultats, quoi. Donc, pour moi, le résultat n'est pas terrible. Et je trouve ça assez étonnant. Et par contre, il y a un truc qui m'a aussi surpris. Enfin, ça, je mets ça aussi en parallèle avec la fin du film que j'ai trouvé vraiment surprenante. C'est-à-dire, elle est très rythmée. Vraiment, à la fin, au début, ça fait très documentaire. À la fin, on dirait vraiment que c'est un clip. Alors, la chanson, elle est un peu bizarre parce que on ne sait pas si c'est à moitié une moquerie ou pas. Enfin, disons
c'est Colette Bany qui chante.
D'accord.
Ben... Une chanteuse qui est oubliée aujourd'hui, mais qui a été très connue, une chanteuse militante, très engagée, et qui a une voix grave, chose qui peut arriver.
Mmh. Enfin, voilà, c'est tout simplement c'est juste pour vous dire ma perception du film, qui à la fois met en scène un personnage qui a beaucoup de potentiel, on va dire, mais qui par contre est l'histoire d'un échec relatif, quoi.
Alors, je trouve votre remarque tout à fait intéressante, monsieur. Moi, j'entends ce que vous dites, ça me dit quelque chose. Ça me dit que peut-être que l'histoire des luttes sociales, l'histoire du militantisme, l'histoire des syndicats, c'est une lutte sans fin. C'est-à-dire que chaque succès, chaque grève menée, revendication obtenue, etc., sont, et ça je crois que Suzanne le dit aussi, sont sans cesse remises en cause, évidemment. La lutte de classe n'est jamais gagnée ou perdue d'ailleurs non plus, une fois pour toutes. Et donc, on est devant un processus qui ne cesse de faire alterner les hauts et les bas, comme vous disiez. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que le film donne ça à sentir. Mais je dirais que la réponse cinématographique qui est donnée à cette espèce de déception inévitablement récurrente que procure la lutte, parce qu'elle est toujours à refaire, toujours à recommencer, parce que voilà, les patrons ne cèdent jamais, etc., etc. Enfin, c'est l'histoire du 19e et du 20e siècle, hein, que je suis en train de résumer à grands pas. Bon, et ben, le film donne une réponse, traduit ce pessimisme historique, on pourrait dire, d'une façon tout à fait différente, puisque tout passe à travers ce personnage plutôt rayonnant, hein, et plutôt joyeux, enfin heureux, disons, je ne sais pas comment on peut dire ça, de Suzanne. Et donc, ce qui se met en place, et vous avez raison de le marquer, c'est une dissociation entre le caractère toujours décevant, infini, la lutte à reprendre sans cesse, le tonneau des Danaïdes, Sisyphe, enfin vous voyez ce genre d'image, il faut remonter la pierre au sommet et elle redescend, etc., et puis le fait qu'on a là un personnage, comme je le disais, qui n'est pas du tout dans l'impuissance, au contraire, qui est toujours dans la puissance. Alors cette puissance n'a peut-être pas d'effet ou peu d'effet dans la réalité sociale de l'usine, encore que ça j'en sais rien, et le film nous ferait plutôt penser le contraire, puisqu'elle a quand même monté un syndicat, elle a quand même lancé une grève, donc elle n'est pas totalement impuissante, cette Suzanne. Mais ce qui apparaît en revanche, c'est que elle incarne une idée de la lutte qui n'est plus négative, qui devient positive, parce que c'est la force de vie, c'est la force vitale qu'il y a dans la lutte. C'est cette capacité à rayonner, à entraîner, à être toujours là, à recommencer toujours. Donc au fond, on dit la même chose, si vous voulez, mais c'est vraiment les deux versants du même geste. La fatalité de la lutte qui est toujours à recommencer, toujours à reprendre, etc., etc., se traduit dans ce film par un personnage qui ne baisse jamais les bras, voilà, et qui est toujours là, prêt au combat et heureuse de l'être. Voilà, c'est ça qui est quand même tout à fait étonnant. Donc je partage un peu moins votre vision sombre de la chose. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, enfin bon, vous l'avez compris, bon, moi je m'intéresse à la manière dont le cinéma repose les questions de la société, vous voyez ? Il les prend et il les pose autrement. C'est ça qui m'intéresse. Au cinéma, les luttes, qu'elles soient perdues ou gagnées, il y a un film et on peut être ému et touché par ce film. Vous voyez, quand Chaplin fait Les Temps modernes, il décrit le travail à la chaîne le plus aliénant et le plus... Mais on rit tout le temps et on est heureux de rire et c'est formidable. Voilà. Et donc, il y a cette contradiction qui est en jeu. La réalité hors cinéma... et souvent malheureusement sinistre et parfois même effroyable, et puis quand le cinéma intervient, quelque chose se change de ça. Alors évidemment il y a une capacité descriptive puissante dans le cinéma qui fait que, comme c'est le cas dans les deux films qu'on a vus, les contradictions ne sont pas masquées, les faiblesses ne sont pas dissimulées, on est dans une épreuve de vérité d'une certaine manière. Mais en même temps, aussi bien un film que l'autre, ils sont portés finalement par le geste cinématographique qui constitue les corps comme des corps pleins d'énergie, pleins d'entrain, pleins d'allant, et non pas des corps battus. Non pas des corps épuisés, voilà, c'est tout. Dans Classe de lutte, les plans... La séquence tournée en 68, qui nous apparaît de façon fragmentaire, hein, par plusieurs bouts. Sur le mur parle le professeur représentant de la CFDT, dont nous entendons quelques phrases, et ensuite nous avons le commentaire... en 69, donc le commentaire aujourd'hui, disons, de Suzanne, qui dit oui, il parlait bien, mais finalement personne ne l'écoutait, et c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Bien. Mais pendant qu'il parle, est-ce que vous avez vu la manière dont c'est filmé ? C'est incroyable. C'est filmé d'une façon. C'est-à-dire que tout est fait comme si Suzanne et quelques-uns de ses amis autour d'elle étaient en train de comploter quelque chose pendant que le professeur parle. Alors voilà ce que le cinéma amène, si vous voulez, et qui ne va pas de soi. Je dirais que un réalisateur un peu lourdeau de la télévision aurait filmé l'orateur. Voilà. Et puis il aurait fait un plan général du public. Pas du tout. Là, on a deux histoires. On a l'orateur d'un côté qui devient très vite hors champ, et ensuite on est dans une sorte de complot, de conjuration, de gens qui chuchotent des trucs à l'oreille qu'on n'entend pas, et on comprend que la révolution est en train de se faire, tout simplement. Alors voilà les représentations, c'est un exemple, mais on pourrait en prendre mille autres, qui permettent de décaler, de décentrer la scène. La scène sociale est décentrée. Voilà. Au lieu de voir la scène, l'estrade, l'orateur, etc., on regarde ce qui se passe dans les coulisses. Et dans les coulisses, on s'aperçoit qu'il se passe autre chose. Il se passe des gens qui sont en train de dire qu'est-ce qu'on va faire ? On agit pas, tu montes sur le mur, tu montes pas sur le mur. Voilà. Et donc, la vraie lutte est là. Voilà. Donc, c'est un petit peu, je dirais, c'est grâce au cinéma qu'on peut décaler ou décentrer ou dissocier ce que la réalité que nous vivons nous présente souvent. Et alors, je ne parle pas de la télévision ou des médias qui nous les représentent, nous montre souvent d'une manière compacte. Voilà. Le cinéma décompacte les choses, ce que j'appelle cliver ou dissocier, qui fait que on est plus exactement en face. On est dans une position un peu oblique et on voit les choses de côté. Et les voir de côté, d'une part, ça les change, bien sûr, ça nous change aussi éventuellement, mais surtout, ça nous libère. Vous voyez, ça pèse moins lourd vu de côté que vu de face.
Je trouve vraiment dommage que dans ce film, la première chanson qui ouvre le film ne soit pas sous-titrée, parce que c'est une chanson magnifique d'un chanteur cubain qui s'appelle Silvio Rodriguez, et c'est vraiment un hymne à la lutte. Et vraiment, le vrai clip qui résume, qui donne le cadre de tout ce qui va se passer dans les différents époques, comme ça, c'est cette chanson-là. Et c'est ça qui m'a mis à moi en condition de voir ce film et de magnifier ce personnage, et magnifier évidemment l'histoire de la lutte. Et donc, je trouve que ce film gagnerait vraiment, vraiment beaucoup à être montré, sous-titré, pour que tout le monde, pour que les spectateurs français soient mis en condition. Quoi.
Je suis d'accord. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il faut lutter pour que toute parole non française soit sous-titrée dans un film. Et quand je dis lutter, c'est que c'est de moins en moins vrai, malheureusement. Puisque vous savez que maintenant, même dans le documentaire, à la télévision, on veut que les gens parlent français. Vous voyez ? Alors, c'est quand même formidable. Imaginons que je fasse un entretien avec je ne sais pas qui, un homme politique danois ou thaïlandais, il sera doublé en français. C'est quand même extraordinaire. Le cinéma avait cette puissance importante, magnifique, de nous faire entendre la langue de l'autre. Voilà. C'est quand même essentiel. Vous avez donc tout à fait raison. Bien, écoutez, je vous propose de nous arrêter là. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci.